On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Hello, hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de Maman et puis voilà, je suis ravie d'être parmi vous une fois de plus. Comme vous le savez déjà, Maman et puis voilà est une émission qui m'est venue un beau matin à la suite de plusieurs questionnements sur le quotidien et les challenges auxquels sont confrontées les mamans. Le but étant qu'à travers cette émission, de nombreuses femmes puissent se reconnaître, beaucoup d'hommes pourquoi pas, car ils partagent notre quotidien de femmes et que cela puisse impacter voire changer des vies. Que l'on puisse en tirer des conseils, des leçons, des motivations, de la force, du courage, de la détermination pour assurer les tracas de tous les jours et l'œil externe. Let's go pour la suite de l'aventure!
C'était tard dans la nuit, j'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?
Pour des raisons d'enregistrement à distance, il est possible qu'il y ait des interférences et des décalages au niveau du son.
Bonjour Daniel.
Bonjour Ashley.
Tu vas bien?
Ça va et toi?
Ça va. Alors je suis très heureuse de te recevoir dans ce deuxième épisode de l'émission Maman et puis voilà. Et sans plus tarder, je vais commencer comme j'ai commencé dans le premier également. Je vais te demander de te présenter. Alors qui est Daniel?
Ouf, qui est Daniel? Daniel, c'est une jeune maman de 30 ans qui aime beaucoup s'amuser, enfin, qui aime la vie de manière générale, qui aime son fils, qui aime ses amis. Bon, Daniel, c'est tout le monde.
Ok, belle présentation. Hein. Chacun se présente et se définit vraiment comme il le voit. Alors, aujourd'hui, tu es dans Maman et puis voilà. J'ai sollicité ta présence parce que je te vois à travers les réseaux sociaux. Je vois que tu es une maman très engagée, très dévouée. Et donc, on va parcourir un peu ton jardin secret. Tu m'en as donné l'autorisation. Donc, on va commencer un peu. Qui dit bébé, dit forcément papa. Donc, on va commencer... par la rencontre avec papa. Comment vous vous êtes connus?
On s'est connus en boîte. Bon, pas en boîte. J'étais revenue en vacances et lui était en vacances au Cameroun. Lui vivait aux États-Unis. On s'est croisés par un ami commun, Stardust. Et on a commencé à sortir ensemble en mode de amour de vacances. Mais finalement, ça a duré. C'est devenu une relation sérieuse. Voilà. Okay. Aussi bêtement.
Ok, et il me semble que tu as fait tes études en France, vu que tu dis que tu es venue en vacances, donc tu vivais en France, et lui au Cameroun du coup?
Bon, en fait, j'ai quitté le Cameroun en 2005 pour aller vivre avec mes parents, enfin, mon père à la base. Du coup, oui, j'ai fait toutes mes études à Bordeaux plus exactement, et lui, il allait faire ses études aux États-Unis. Donc, au moment où on s'est rencontrés, c'était simplement le moment où. On revenait en vacances, quoi. Je crois que c'était le mois de juin.
D'accord.
Donc, c'était juste des vacances, rien de particulier. Effectivement, après, quand la relation est devenue plus sérieuse, on a décidé de s'établir tous les deux au Cameroun.
D'accord, ok. Et comment vous avez vécu le fait d'être à distance l'un de l'autre?
Bof, disons que. On va dire que quand tu sais que tu es avec la bonne personne et que vous êtes à distance, pas par votre volonté, mais par la force des choses, je veux dire, je n'avais pas terminé mes études et il avait un boulot ici. Donc, on n'était pas à distance parce qu'on le voulait, mais c'était nécessaire pour, que, voilà, pour s'établir. Donc, ce n'était pas forcément. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais voilà, ça te faisait, ça donnait une raison de tenir, c'était une motivation, c'est pour vite finir et revenir, quoi. Donc, en soi, je n'ai pas forcément mal vécu les moments de séparation. Et puis, bon, on a WhatsApp, on s'appelle tout le temps, voilà.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les relations à distance, on peut les vivre moins difficilement qu'à l'époque.
Ouais. Donc, il y a toujours un contact, il n'y a juste pas le contact physique, mais comme une relation n'est pas faite que de contact physique, ça va.
Exactement. Et donc, à quel moment, est-ce qu'il y a un projet bébé ou alors est-ce que le bébé, il vient comme ça? Est-ce qu'il vient d'un commun accord ou c'est, j'ai envie de dire, un accident? Comment est-ce que le projet bébé?
Non, en tout cas, en ce qui nous a concerné dès le début, quand on a su que la relation était... Enfin, qu'on a su ce qu'on voulait faire de nous deux, de notre relation, il est clair qu'on a voulu un enfant assez vite. J'ai même au bout de 3 mois, on voulait déjà faire un enfant, si je me souviens bien. Maintenant, le temps passant, je me suis rendu compte que j'avais pas d'envie d'enfant. Bon, je suis allée faire des examens. Oui. Et il m'est révélé que j'avais un syndrome polykystique ovarien, qui en fait, c'est un dérèglement hormonal qui fait que j'ovule pas forcément tous les mois, quoi. Donc, mon ovulation est extrêmement aléatoire. Okay. Donc, quand bien même j'ai mes règles, je peux faire un an sans avoir d'ovulation. Donc, j'aurais beau faire ce que je veux, je ne tomberai pas enceinte. Okay. Donc, une fois que j'ai vu ça, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on a tous les deux, de notre côté, cherché les raisons du pourquoi je ne tombe pas enceinte. C'est-à-dire que lui, il a fait ses examens. Moi, j'ai fait les miens. Lui, il avait un manque de faire quelque chose dans ce genre. Bref, on était tous les deux sur médication. Il a arrêté de boire, il s'est remis au sport. Enfin, moi, pareil. J'ai suivi un traitement. Je suis allée en France pour suivre un traitement. Et effectivement, quand je suis revenue au Cameroun, en une semaine, je suis tombée enceinte.
Waouh!
Bon, en même temps, je venais en mission. Je venais. Donc, donc voilà. Voilà. Enfin, la fin, je dis, l'avantage était que je n'ai pas. La probe n'a pas été versée sur moi en mode tu peux pas faire d'enfant. C'est on va voir pourquoi on n'arrive pas à avoir un enfant. Donc, il a fait ses examens, j'ai fait les miens. Ce n'était pas ma responsabilité à moi seule du fait de ne pas avoir d'enfant. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était nous deux. Donc, autant moi, il n'aurait pas besoin de traitement, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est dans ce cadre-là que Donc, j'ai fait mes examens en France, j'ai eu droit à plein d'échographies, des prises de sang, bref, le médecin a fait ce qu'elle avait à faire. Et elle m'a dit, je pense que là, c'est bon. Donc, mon traitement a duré pratiquement 3 mois. Okay. Elle m'a dit, bon, à partir de maintenant, tout s'est essayé et voir comment ça réagit. Et effectivement, au premier essai, après le traitement, c'était bon. C'est comme ça que je tombe enceinte.
Super. Et alors, quand tu apprends que tu es enceinte après ce traitement-là, après un traitement commun, j'ai envie de dire, comment vous prenez donc la nouvelle? Vous êtes heureux, je suppose?
Bon, déjà, franchement, ça a été extrêmement rapide. C'est-à-dire que, si mes souvenirs sont bons, je suis venue au mois de mai au Cameroun. Je suis venue 10 jours. Je suis tombée enceinte. Enfin, du moins, je suis tombée enceinte. Et aussi, il faut aussi mettre, je veux rappeler aussi là, la pression. C'est-à-dire que des fois, tu es dans une pression de tomber enceinte que tu ne vis plus. Et je me souviens que pendant les 10 jours que j'ai passé au Cameroun, je crois que j'ai jamais autant bu de ma vie, en fait. En fait, à un moment, je me suis dit, vous savez quoi, laisse tomber, si je ne veux pas être enceinte, je verrai plus tard. Donc, j'ai fait la fête, j'ai bu comme n'importe quoi. Oui. Et quand je rentre au Cameroun, je rentre en France, autant mon cycle n'est pas forcément, on va dire, je ne veux pas tous les mois, autant mon cycle est extrêmement précis.
Oui.
Donc, je crois que j'ai fait 1, 2, 3, 4 jours et puis je me dis, merde, mais c'est pas mes règles en fait. Et j'avais un dégoût de la viande. Moi, je suis une grosse carnivore.
Oui.
Et je sais pas, un jour, je me retrouve au supermarché, à Auchan, j'arrive au rayon viande et j'ai envie de dégueuler. Je me dis, mais c'est quel donc je supportais pas la viande, la vue, l'autre, rien. Oui. Et j'avais une pote
Je lui ai dit, ah, maman, ça fait 3 jours. Je fais le test ou je ne fais pas le test. Parce que je me souviens qu'une fois avant, j'ai eu aussi 3-4 jours de retard. Et le jour où je vais faire le test, tu sais qu'au moment où tu pisses sur le truc, oui. Tu sens qu'il... J'étais tellement... J'ai eu ce genre d'expérience au moins 2-3 fois.
Oui.
Et me dit, ah, j'ai eu les retards de 3-4 jours. Ce n'était pas fructueux. Est-ce que je fais encore? Et je me souviens très bien, on était au centre commercial, au champ Mériadec. Mm. Je vais à la pharmacie du centre commercial, j'achète le test. Elle me dit, tu vas faire la maison. Elle me dit que, gars, là, il n'y a pas de mouillé, c'est que je vais dans les toilettes du centre commercial. Moi, ça va, ça. Donc, aucune patience. Donc, je vais dans les toilettes du centre commercial. Et là, je me mets à crier comme une folle.
Waouh!
Je me regarde beaucoup. Ma copine et moi, on était venus en pleurs et toi, t'es avec son gars. C'était vraiment, j'étais hyper contente. Donc, première chose, j'appelle ma mère. Elle me dit, bon, quand ma mère est super, moi je t'ai abordé, elle me dit, ok, j'arrive demain, on va chez le médecin. Et j'appelle donc Sylvain. Elle me dit, arrête tes blagues, je suis pas d'humeur. Elle me dit, ah, je te dis que je suis enceinte. Elle me dit, tu mens. Elle me dit, bon, tu sais quoi, quand tu vas être en mesure de me croire, tu me crois, bon, j'ai pas le. Donc c'est un peu comme ça, du coup. Après, ma mère me dit, tu es sérieux. Elle me dit, bah, tu sais quoi, tu me fatigues avec tes questions. Je suis pas enceinte. Donc, du coup, c'est quand ma mère l'appelle, il me rappelle, il dit, tu es sérieux. Je dis, mais. Bien sûr, enfin, je ne vois pas l'intérêt en fait, de faire une blague pareille parce que, enfin,
exact. On pousse.
Et bon, après, en africain, je ne lui dis à personne. Enfin, bref, j'avais déjà partagé dans tous mes groupes de mes copines. Non, vraiment, personne, enfin, je ne dis à personne.
J'avoue que c'est très difficile en fait, en africain, justement, de tenir ce genre de secret, j'ai envie de dire. Parce qu'on a envie de partager sa joie à ses amis, à ses proches, en fait. On a envie de parler, on a juste envie de s'exprimer et tout par rapport au bonheur qu'on ressent. Mais on est très vite refroidi, justement, par ces remarques-là.
Bon, des remarques que je peux comprendre, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux. Donc, je me dis que, de manière tout à fait naturelle, les 3 premiers mois sont les plus difficiles chez tout le monde.
Exactement.
Donc, ce n'est pas particulièrement chez l'Africain que ça va te faire quoi que ce soit. Non, mais bon, après, l'idée n'était pas forcément de frustrer. Tu dis OK, et puis tu le fais ou tu le fais pas, c'est autre chose.
C'est vrai.
Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis dit, bon, si la peau a envie, je vais pas. Voilà, je vais pas. Ça va. Bon, on dit en Côte d'Ivoire, c'est non qui emmène pas l'arbre. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit à qui j'avais envie de dire. Mais je lui ai dit OK. C'est simple. Bon, ça, c'était pas utile de rentrer dans une guerre, pourquoi tu as dit à telle,
Exact. Et bah, du coup, tu es très contente. Hein, et comment est-ce que tu vis parce qu'on sait qu'on a en général des bobos de grossesse, le premier trimestre surtout. Comment est-ce que tu vis ton premier trimestre, les visites prénatales? Comment est-ce que tu réalises que tu vas être maman? Est-ce que tu te rues sur les pages des magasins pour acheter des vêtements? Comment est-ce que tu vis ça?
Après, franchement, est-ce que je veux me souvenir en détail? C'est un truc, l'enfant dure dans le ventre. Il dure dans le ventre, après tu passes à autre chose. Mais dans de mes souvenirs, déjà, je sais que le lendemain, du coup, je suis allée voir ma gynéco. Elle aussi était très contente parce que j'avais vraiment exprimé le fait que j'avais vraiment ce besoin-là d'être enceinte. Et puis, j'étais extrêmement reconnaissante. Pourquoi? Parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, je crois que j'en avais parlé en story. J'avais eu vent de médisance à mon sujet, qui disait que j'étais un peu une gold digger, donc que je sortais avec un homme qui était relativement riche, que j'avais la France sans travail, au cas où je ne travaillais pas, et que la moindre des choses que je pouvais faire, c'était au moins de lui donner un enfant. Moi, j'avais extrêmement mal vécu, en me disant, vous ne connaissez pas le vécu des gens.
Exactement.
De quel droit vous permettez de juger le fait que je sois une gold digger ou non, ou que je ne puisse pas lui donner un enfant. Et vraiment, j'ai été vraiment reconnaissante de me dire que, en fait, je suis enceinte, c'est ce que j'avais toujours rêvé, mais j'avais aussi peur de me dire qu'encore, les gens vont encore parler, et je me suis sentie directement très protectrice envers mon enfant.
Oui.
Extrêmement protectrice. Et je ne pense même pas que... Je crois que j'ai révélé ma grossesse presque à terme. Personne n'en a rien... Personne, enfin, du moins sur les réseaux sociaux, personne n'en a rien su. Parce que vraiment, je ne voulais pas quelqu'un ou un commentaire me gâche, ne serait-ce qu'une minute de cette expérience.
Exactement.
Et du coup, effectivement, j'ai mis beaucoup d'accent sur ma santé. Beaucoup d'accent sur ma santé. Et
Pendant ma grossesse, je travaillais au McDo. Donc, okay. J'étais extrêmement active. J'étais pas fatiguée. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir en plus un regain d'énergie. Mais comme je le disais, en termes d'alimentation, je mangeais pas de viande. Je dormais partout, n'importe où. À l'époque, je passais mon permis français et je me souviens qu'une fois, même avant de savoir que j'étais enceinte, j'étais allée au code, je me suis assise, je me suis endormie, je me suis réveillée quand tout le monde a fini. J'étais en mode, au point où j'ai dormi, j'étais exténuée. Je me suis dit, mais je me suis endormie à quelle heure? On a fait une autre heure de cours, j'ai rien entendu. J'ai dit, vraiment, il y a un truc bizarre. Par contre, le sommeil, c'était vraiment. Donc, quand il finissait le travail, je me lave là.
Tu dors?
Non, seulement. Je dors. Il n'y avait pas de sommeil. J'ai vomi une seule fois, je crois. Parce que j'avais mangé pas frais. J'ai vomi une seule fois. J'avais pas de la salade, la salivation. J'avais pas ça. Comme j'étais très active, j'ai pas pris de poids. J'ai pris, de toute ma grossesse, je crois que j'ai pris 10 kilos.
Super.
De toute ma grossesse.
Non, j'ai pas c'est le genre de grossesse idéale, alors, franchement.
Je pense que pendant ma grossesse, il n'y avait pas plus belle que moi. J'avais perdu le poids, que j'avais perdu avant de tomber enceinte. Et là, je faisais que, j'étais toujours aussi fine. Et donc, franchement, je ne peux pas dire que j'ai eu une grossesse difficile. Peut-être après, vers la fin, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos. Du coup, j'allais chez l'ostéopathe pour qu'on me replace sur le bassin tout le temps. Mais vraiment, je crois que la grossesse d'Aaron, je ne peux pas me plaindre. Vraiment pas me plaindre. J'avais quelques sauts d'humeur aussi de temps en temps. J'avais des crises de larmes. Parce que des fois, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Mais de manière globale, franchement, je ne peux pas dire que j'ai vraiment souffert.
De manière générale, j'ai envie de dire que c'était une belle expérience pour toi.
Oui, franchement, c'était une belle expérience.
D'accord. Et est-ce que tu as... C'est vrai que ça fait longtemps parce que Aaron, aujourd'hui, il a 2 ans. Donc,
2 ans, ouais.
Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, si tu t'en souviens, pendant ta grossesse?
Ce qui m'a marqué, c'était vraiment le fait de porter la vie, de le sentir bouger. Et surtout, d'un point de vue... familial, l'amour. Nous en Afrique, on est en mode il faut que tu fasses tes études, il faut que tu te maries, il faut que machin. Déjà, nous n'étant pas mariés, j'étais contente l'accueil de Aaron, ça a venu au monde, en fait, finalement, soit bien reçu de nos deux familles. Ça n'a été un problème pour personne. Aucun de mes parents n'a fait réflexion, aucun de la famille de l'autre côté n'a fait réflexion. Tout le monde était vraiment... C'était un événement heureux pour tout le monde. Vraiment, c'est... Sans jugement, tout le monde était vraiment heureux. Donc, ma grossesse, vraiment, n'était que ponctuée par des grâces. Vraiment, tout le monde était content, personne ne m'a embêté. J'ai ma belle-sœur qui venait à Rissaki, le Cameroun, elle est venue 2-3 fois. C'est elle, comme Sylvain ne pouvait pas venir, c'est elle qui venait pour m'accompagner pour mes visites quand ma mère ne pouvait pas. Franchement, c'est tout ça qui m'a marqué, le fait que vraiment Aaron, c'était la bénédiction pour tout le monde.
Oui.
Ce qui m'a manqué forcément, c'est la distance. Là, pour le coup, c'était compliqué de ne pas être près de Sylvain parce qu'effectivement, il ne pouvait pas toucher le ventre, ce genre de choses.
C'était dans le contexte Covid, c'est ça?
Non, ce n'était pas encore dans le contexte Covid, c'était après, mais il ne pouvait pas, pour des raisons personnelles, il n'a pas pu se déplacer.
D'accord, ok.
Et j'avais tout le monde sauf lui. Mais bon, il était là d'une certaine manière, mais ce n'était pas comme on l'aurait espéré. Exact. Donc, c'était un peu difficile pour les deux de vivre une relation, une grossesse à distance. J'ai eu l'occasion de venir un moment, mais lui ayant déjà perdu une sœur à l'accouchement, il m'a interdit de venir au Cameroun. Il a dit, je veux pas d'incident, je ne veux pas, non.
Oui.
Je préfère prendre sur moi qu'on se voit pas, que tu arrives ici, même pour les vacances, si t'arrives un truc, après ça tourne au vinaigre. Il a dit, pas de question. Donc du coup, je suis pas venue. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé.
D'accord, ok. Et Comment as-tu vécu ton accouchement? Tu sais, les non-mamans rurales. Et pour...
c'est là que je m'en
dis. Beaucoup de questions par rapport à ça. Non-mamans, elles aimeraient bien savoir. Enfin, je pense qu'elles ont beaucoup d'avis aussi extérieurs, mais j'aimerais bien avoir ton avis. Comment toi, est-ce que tu as vécu ton accouchement?
C'est la partie du film, je m'en dis, parce que franchement, tout s'est bien passé jusqu'à la semaine de l'accouchement. Bon, déjà, pour ceux qui savent qu'ils accouchent en France, tu as droit aux visites prénatales. Et dans les parmi les visites prénatales, tu as le rendez-vous avec l'anesthésiste en cas de... En cas de... Il ne faut pas césarienne. Enfin, si césarienne et... comment on appelle ça encore? Péridural. Donc moi, en femme forte, MDR... Je dis oui, dans ma famille, les femmes n'accouchent pas avec césarienne, tu dois faire l'effort. Je regarde en gros de quand ce sera ton tour d'accoucher, tu demanderas ton avis en attendant. Vraiment. Ma mère aussi, pareil, non, la césarienne, ça tenait mal au dos. J'étais seulement là en mode de, j'en ai rien à foutre. Je leur ai dit, je vais faire l'effort. Si je peux accoucher sans péridurale, je ferai l'effort. Mais si j'ai mal, je ne vais pas souffrir pour le plaisir de vous faire plaisir. Si j'ai mal, j'ai mal et basta. Donc, on verra le jour d'accouchement. Donc, j'ai accouché un vendredi. Mes contractions ont commencé mardi.
Waouh.
Voilà, déjà pour commencer, dans le mardi, j'ai les contractions rapprochées pendant une heure et tout. Juste, bon, c'est des contractions. C'est des contractions rapprochées, mais en termes de douleur, je gère. C'est-à-dire que ça fait mal, mais je gère. Donc, on va à l'hôpital, on me met la machine pour écouter son cœur et tout. Je passe une heure, on me dit non, c'est... C'est le début, donc c'est proche, donc ce sera dans la suite, donc il n'y a pas de... Donc je pense que jusqu'à 10 heures, j'avais des contractions comme ça, et après ça s'est calmé.
Okay.
Donc j'avais toujours des relances, mercredi j'ai eu des relances, donc mardi dans la journée j'avais des... Donc, voilà, ça ne durait plus toute l'heure, mais j'avais quand même de temps en temps des contractions.
Exact.
Mercredi, pareil, ça relance, ça dure 30 minutes, ça s'arrête, ok. Mais l'intensité augmente par contre. Jeudi, la journée, pareil. Jeudi, 22h. J'ai quand même joli, mais vraiment, c'était un film d'horreur. Ce qui s'est passé à 22h, très exactement. Mais c'est parti. Je pleurais, j'avais mal. Et je me souviens, Sylvain, lui, était à Yaoundé. Il était derrière lui pour juste voir. Et du coup, il était certainement dans le bus ou un truc comme ça. Mais bon, il était fatigué, il n'était pas disposé à me parler. Bref.
Oui.
Donc, ma soeur, je me souviens, ma soeur qui m'a été vraiment d'une grande aide. C'est avec ma soeur que j'ai accouché, pas avec ma mère. Parce que je ne voulais pas les réflexions bizarres dans
mes Les remarques.
Ouais, elle a quand même fait beaucoup. Donc, du coup, ouais, donc ma soeur m'a fait couler un bain. J'ai mon frère qui est aussi à la maison, qui me tenait la main. Ma mère, elle a commencé à me dire « Oh, ça va, arrête de pleurer aussi fort. J'ai accouché 3 enfants, je ne pleurais pas comme toi. » Je la regardais, du coup, on est en mode « Ah, bah, bah. Je ne sais pas si tu veux qu'on s'en sorte aujourd'hui. » J'avais tellement mal. Et je crois, aux environs de 2 heures, j'ai dit à mon frère d'appeler un chauffeur Uber pour aller à l'hôpital parce que je n'en pouvais plus.
Oui.
Ma mère qui dit « Non, attends, demain matin, support. » J'ai dit « Mon frère, je n'entends rien. Je m'en vais, en fait. Je vais dire... » Elle m'a dit, dans mon bas, avant ça à l'hôpital, moi je vous retrouve. J'ai dit à mon frère, c'est marrant, pardon. Ma frère et ma soeur ont porté mes affaires et on a pris le bus, un taxi Uber. Et on arrive à l'hôpital, le gardien n'a pas été pissé. Moi, on a comme on fait, c'est quand il veut venir accoucher que tu vois que tu vas aller pisser. Donc, on a été fermé. Le chauffeur a fait que me guetter avant que la gosse est en train de pleurer, elle va accoucher dans ma voiture. Donc, et c'était en plein hiver, il faisait froid. J'avais mal, mon frère m'a littéralement porté, je pleure. Donc, je suis arrivée à l'hôpital en pleurs. Je me dis, mais tout s'est bien passé, mais depuis mardi, là, c'est en train de faire comme si.
Ouais.
Donc, j'arrive, on me prend en charge. Mon frère me dit, oui, madame, le travail commence à 5 doigts. Et puis, la matin, il disait que j'attends de quoi, j'allais coucher à la maison.
Ah, ça?
J'avais tellement mal depuis mardi que j'avais fait que j'allais dire, oui, ce moment, dit qu'elle est péridurale. Je ne veux même pas que.
Je
ne
veux pas comprendre. Ah, c'est comme si là, je ne suis pas là.
Et je sais pas, tu sais qu'il y a des fois, je ne sais pas, quand tu cognes ton hôtel, tu as l'impression que tu as le souffle qui se coupe tellement ça fait mal.
Mais tu vois, ça joue en toutes les secondes. Donc, à un moment donné, gars, vous pouvez me demander de supporter. Et si je meurs, parce que je veux supporter la douleur, je ne suis pas dedans. Mmh. Et mettez-moi la péridurale. Donc, c'était donc, quand même, c'était un soulagement. Depuis 3 jours que j'étais en peine. Soulagement fort. Et c'est là, elle me dit que le travail a commencé, mais ça va, ça va être très lent. Du coup, je vais dormir. Okay. Donc, c'est que j'ai eu le temps de 2 heures à pratiquement 11 heures. J'ai fait que dormir. J'avais des contractions, mais j'avais pas mal.
Exactement.
Et du coup, j'ai aux environs, j'ai accouché à 12h10 très exactement. Mm-hmm. Donc, j'étais en ma soeur qui était avec moi et qui était en FaceTime avec mon chéri et tout. Bref, il a assisté à tout ça en vidéo. Mm-hmm. Et bon, dès que j'ai accouché, il m'a dit merci la mère. Après, j'entendais seulement que les champagnes ont déjà fait comment à Douala. Bon, bref, on était pour avoir. En fait, il y a des les richets, oh les machins, chouette. Bon, tu connais la joie en général qui accompagne les naissances chez nous. Exactement. Donc, on l'a libéré, je n'étais plus moi. L'objet des conversations, c'était Aaron ici. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Vraiment une belle grossesse, mais la semaine d'accouchement, là, c'était vraiment horrible pour moi.
D'accord, ok. Et je sais qu'on pose en général le bébé sur la poitrine. Quand on t'a posé Aaron sur la poitrine, qu'est-ce que t'as ressenti?
Je ne sais même pas si hein, vraiment un mot peut écrire ça. Ça faisait... C'était juste magnifique parce que, en fait, quand on fait des échographies en France, je ne sais pas si c'est comme ça au Cameroun, tu peux apercevoir le visage de ton bébé. Et pendant toutes les échographies où j'étais, Aaron a toujours caché son visage. Donc, je découvrais vraiment même l'esquisse de son visage, tu vois. Donc, j'étais juste éblouie. Et il n'a pas beaucoup pleuré. Et il a commencé à sourire. Bon, Aaron, il est connu pour son sourire. Et du coup, ouais, j'étais juste en mode je suis maman, c'est bizarre. C'est juste ça.
Moi, je te vois beaucoup comme une femme forte, justement. Tu l'as même dit à un moment. Est-ce que tu as pleuré?
Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je pleure beaucoup, hein, faut pas croire. Je pleure beaucoup, mais je me remets beaucoup. Je me remets très vite sur pied.
Exact.
Mais je pleure, je suis quelqu'un qui est vraiment très émotif. Je pleure vraiment pour tout et rien. Mais je pleure jamais autant.
C'est une bonne chose. Que dirais-tu à une femme aujourd'hui qui souhaite avoir un enfant, qui n'a pas forcément de difficultés, parce que bon, tu en as eu, mais pas longtemps, mais qui n'a pas forcément de difficultés, mais qui souhaite en avoir, qui appréhende, qui ne sait pas trop, est-ce que tu as un conseil à lui donner?
Bon, de manière générale, être mère, pour moi, je dis bien pour moi, c'est une grâce. C'est une grâce de porter la vie, de... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En fait, quand je regarde mon fils, à chaque fois, je me dis que je suis capable. Parce que pour moi, c'est la chose la plus difficile. Mmh. Et avoir un enfant, c'est être prêt à l'assumer seul, même si tu es avec quelqu'un. C'est la première des choses. Être mère, c'est être prêt à l'assumer seul. Parce que Dieu a voulu que l'enfant naisse par un autre canal. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ta responsabilité à toi seul, mais tu dois être capable de l'assumer seul.
Oui, je vois.
Vouloir avoir un enfant, c'est une chose. Pouvoir l'assumer, c'est une deuxième chose. Mmh. Franchement, aujourd'hui, je me demande si j'aurai d'autres enfants ou pas parce que j'en ai pas la capacité. Et parce que ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants, mon argent suffit seulement pour Aaron, par exemple, de manière globale. C'est que ce que j'ai envie de lui offrir, si je me permets d'avoir un autre enfant aujourd'hui, ça va diviser en deux, en fait, ce que je pourrais offrir à mes enfants. Et c'est pas ce que je veux. Mmh. Parce que oui, l'enfant, c'est la bénédiction, mais la bénédiction aussi, c'est pouvoir élever un enfant selon quand même un certain critère de vie que tu souhaites. Je souhaite que mon enfant soit à l'étranger, je souhaite que les vacances partent à l'étranger, je souhaite que le week-end, il parte à l'ouest voir son grand-père, ce genre de choses. Mais je souhaite qu'il aille dans un certain confort, je souhaite qu'il aille dans telle école. Est-ce que j'ai vraiment la capacité de lui offrir ça? Franchement, on est dans une société camerounaise où on a tellement fait croire à la femme qu'elle n'est rien sans enfant, qu'il y en a qui se préfient à faire des enfants, mais qui après, elles n'arrivent même pas à les nourrir.
Elles n'arrivent même pas à les nourrir, elles n'arrivent pas à les soigner, elles n'arrivent pas à les envoyer à l'école.
Tu touches
à rien demandé. Voilà, tu vois.
C'est vraiment un point important parce que il y en a beaucoup, excuse-moi de t'interrompre, mais il y en a beaucoup, on voit justement, qui veulent avoir des enfants, mais tu touches un point important en disant que le tout, c'est pas de vouloir, mais c'est d'avoir vraiment cette capacité-là à pouvoir les assumer pleinement.
Surtout, pour moi, il y a un minimum. Il faut que tu puisses le nourrir convenablement. Il faut que tu puisses l'éduquer, l'envoyer à l'école. Il faut que tu puisses le soigner s'il a un problème. Et je veux dire, enfin, je ne vois pas pourquoi tu vas. Pour un enfant, c'est une source de motivation, en fait. Pourquoi tu vas perpétuer ta galère? Je ne vois pas l'intérêt. Tu galères. Tu as un enfant qui va aussi venir galérer. J'étais au marché. Quand je vais au marché sans dire que je fais mes cours, je vois des enfants de 10, 11 ans qui sont portés à 5 francs le cœur. Je me dis, ils sont les parents, en fait. Pourquoi ils sont censés être à l'école? Qu'est-ce qu'il faut apporter à. Enfin, c'est un truc que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Il y a au moins le minimum qu'on doit faire à un enfant. Et on n'éduque pas un enfant avec l'argent. Parce que quand je dis ça, les gens pensent que ça veut dire qu'on n'éduque pas un enfant avec l'argent. Je me fais beaucoup d'efforts, je travaille beaucoup. Je fais beaucoup d'efforts pour ne serait-ce que passer une après-midi seule avec mon fils. Je fais tout pour qu'il ressente vraiment l'affection d'avoir un parent. Ce n'est pas juste OK, parce qu'il y a des parents, l'enfant a le goûter, il a le chauffeur, l'enfant, tu ne vois jamais ton enfant. Tu ne sais même pas si l'enfant a mangé. Tu ne sais même pas. Des fois, je me sens même des fois honteuse. Quand je ne sais pas, on m'a toujours demandé si l'enfant a fait les devoirs. Je ne savais même pas. Mais c'est une prise de conscience que j'organise mon temps pour faire les devoirs avec lui. Un enfant, ce n'est pas juste la version de nos parents où une fois que tu vas à l'école, on a payé l'école, on a payé les goûters, gars, tu te gères. Pour moi, ça aussi, c'est pareil. L'enfant, c'est un mélange, un des besoins affectifs, un besoin de confort. Si tu ne peux pas, pour moi, une fois de plus, gérer les deux côtés, je pense qu'il n'est pas nécessaire que tu en fasses un. Maintenant, s'il arrive par accident, c'est déjà arrivé, tu dois prendre conscience de ça à ce moment-là. Que maintenant que je suis enceinte, que je décide de garder l'enfant, je vais devoir organiser ma vie dans ce sens.
Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Daniel, pour ton avis par rapport à ma question. Alors, je vais passer à une autre étape qui peut être qui est douloureuse en réalité, parce qu'aujourd'hui, tu es maman célibataire, mais pas par choix. Excuse-moi. Comment est-ce que... Excuse-moi. Donc, la gestion de la situation aujourd'hui a très certainement changé. Sans papa, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Est-ce que tu penses que vous auriez dû faire les choses autrement? Est-ce que... J'ai beaucoup de questions, mais j'ai d'abord envie, en fait, de t'entendre, de t'exprimer par rapport à ça.
Globalement, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret parce qu'il y a ce que l'homme veut.
Prends ton temps. Prends ton temps.
Il y a ce que l'homme veut, il y a ce que Dieu décide. Dieu a décidé le 6 décembre dernier de reprendre la vie de Sylvain.
Oui.
C'est toujours. C'est toujours un peu what the fuck pour moi, quoi. Toujours un peu compliqué. On était en France pour préparer la rentrée de Aaron. Donc Aaron et moi. Et puis, je me lève le 6 septembre en train de faire mes bagages parce que j'avais prévu de rentrer le 8 septembre. Aaron devait reprendre l'entrée à l'école le 9. Donc la semaine d'avant, Sylvain était resté à l'école. Il est prévu d'accompagner à l'école le 9 septembre. Et je me lève le 6 septembre avec cette nouvelle. Je me souviens encore des mots de ma belle-sœur. Daniel, Sylvain est mort. OK, enfin, quoi? Donc, déjà, et je me souviens que la première chose que j'ai criée, c'est « Aaron n'a même pas 2 ans, tu vas où ?» Parce que Aaron, c'était notre plan de vie. Donc,
Oui, vas-y. Non, je voulais
dire. Oui, je pleure, mais je ne peux pas.
Je n'ai pas très bien entendu en réalité. Je ne sais pas.
Non, si... je dis que oui, effectivement, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est et Aaron. Enfin, j'ai jusqu'à présent, j'ai 30 ans, j'ai mes deux parents. Je ne sais pas c'est quoi vivre avec un parent.
Exactement.
Donc, c'est la première chose qui m'est venue, c'est comment je vais faire avec Aaron toute seule. Je suis entourée par ma famille. Mais c'était Aaron, moi et Sylvain. Comment je fais à lui, je le regarde et puis il comprend rien de ce qui se passe et vraiment le monde est parti. Donc c'est comme ça que j'arrive au Cameroun 2 jours plus tard. Et pareil, je sais qu'à chaque fois qu'on venait de vacances, il était toujours là à m'attendre à l'aéroport. Je ne vois pas à l'aéroport, je commence vraiment à prendre conscience que c'est vrai. En fait, donc ouais, comment je vais faire, et toujours cet amour qui m'a apporté pendant notre grossesse, cet amour là est resté, c'est à dire que j'avais mes belles sœurs, j'avais ma famille qui était là, ils sont toujours là pour veiller à voilà, à ce que j'ai un certain équilibre, que Aaron ne se sente pas, mais c'est un gîte qu'on ne peut pas remplacer et que je pense que voilà, on va juste devoir vivre avec. Et j'essaie une fois de plus, comme je te disais, j'ai eu la bonne habitude de gérer comme si j'étais seule, pas parce que j'étais seule, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un peu moins compliqué, si on peut dire ça comme ça, parce que dans ma tête, effectivement, au moment où j'ai décidé que j'allais avoir un enfant, j'avais peut-être inconsciemment mis ça dans ma tête dans son coin. Que de toute façon, potentiellement, je pourrais être seule un jour avec lui, donc il faut que je vive avec et que tout ce qui vient autour n'est qu'un bonus. Donc, je me félicite du fait que Aaron ne soit pas trop perturbé, qu'il soit toujours un enfant souriant, qu'il recherche son père sans la peine, parce que quand il voit les photos de son père, il fait papa, il fait des bisous sur la photo.
Est-ce que tu penses qu'il sait aujourd'hui que son papa n'est plus là? Est-ce que tu penses qu'à cet âge-là, il a un minimum conscience de ce qui se passe?
Non, je pense vraiment pas. C'est trop tôt, enfin... Il serait vraiment trop tôt pour qu'il comprenne ça. Mais le manque est là. Mais peut-être, je ne sais pas, il est parti en vacances. Mais aussi le fait que... Je ne veux pas te dire. Mais ce qui est sûr, et qui est le plus important pour moi, c'est que Aaron a gardé sa bonne humeur. Et effectivement, ma peur vient du moment où il va prendre conscience de ça. Je pense qu'il avait conscience... ce serait différent. Mais ma plus grosse peur, c'est au moins il va comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, qu'il est orphelin à même pas 2 ans. Comment ça va se passer? Bon, une fois de plus, j'ai encore une grosse mission de ne pas le lui faire sentir. Je mets un effort particulier à ce qu'il soit proche des gens qui étaient proches de son père, ses oncles, ses tantes. Pour que je ne veux pas couper ce lien. Je ne veux vraiment pas couper ce lien pour lui. Maintenant, ce lien-là, il faut... Le problème maintenant, c'est qu'en tant que femme, il va falloir que je puisse garder ce lien pour mon fils sans qu'il ait un impact sur ma prochaine vie, par exemple.
Exactement.
Et la difficulté reste dans mes mains, mais clairement, il est toujours... il est ma priorité. Donc, tout ce qu'il va pouvoir faire, son bonheur à lui, sera la priorité au mien. C'est ainsi. Et puis, comme je dis, c'est la chance qui fera que je puisse équilibrer les deux sans avoir trop à perdre dans l'histoire. Parce qu'au final, personne n'a... voilà, c'est la faute de personne. C'est la vie, c'est ainsi. À partir du moment où tu nais, tu as assez vieux pour mourir, c'est une éventualité. Personne n'était prêt.
Et voilà, tout simplement, et ça permet vraiment de jouer dans les temps, parce qu'on s'était dit, ok, on aura tous nos enfants dans 35 ans, et ainsi de suite. Bon, du coup, là, c'est... Parce que quand j'étais allée en France, j'étais repartie prendre mon traitement pour rentrer, retourner enceinte, c'était ça le plan. Donc, du coup, ouais, je me retrouve au bout de... C'est là, c'est plus ma vie de femme qui est en attente, quoi.
Exactement.
C'est là où j'ai du mal à me... à voir clair, mais ça remet, oui, est-ce que le fameux débat qu'on a eu hier sur Twitter, les mères avec enfants, on va pas les épouser, blablabla. Donc c'est un peu ça. Bon, toi, tu remets la preuve, donc tu étais mariée avec un enfant, donc entre ce que les gens disent, et en même temps, ceux qui disent ça, c'est ceux qu'on n'a pas envie d'épouser, c'est bizarre. Donc voilà, c'est dans ces genres de questions, est-ce que je vais retrouver quelqu'un avec qui j'aurai un amour, je dirais pas similaire, parce qu'on peut pas avoir un amour similaire avec quelqu'un d'autre, mais un amour qui va me rendre autant heureuse.
Est-ce que tu penses que...
C'était Aaron comme son...
Est-ce que c'est quelque chose... Je veux dire, est-ce que tu te projettes même dans ce sens Enfin, attends, il faut que je pose bien ma question. Est-ce que... aujourd'hui, en fait, quand tu vois comment tu vis la situation, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir tout recommencer? Est-ce que déjà, il y a cette envie-là, en fait, de se dire qu'OK, il y a un jour où je vais tout recommencer, il y a un jour où je vais me reconstruire, il y a un jour où je vais continuer. Sylvain aurait voulu que, bah oui, à un moment, je me relève, il n'aurait pas voulu que je pleure. Est-ce que tu envisages vraiment un futur comme ça?
Ah oui, mais forcément, faut pas croire. Je dis, faut pas croire, c'est que en toute transparence, j'ai des dates, il y a des gars qui m'invitent, il y a des gars qui me draguent, bon voilà, je regarde mes options. Mais effectivement, comme je dis, ce n'est plus tout aussi innocent que je faisais avant. C'est-à-dire que maintenant, je vais peut-être regarder, voilà, j'ai peut-être des critères plus rigoureux, parce que si jamais je dois réintégrer quelqu'un dans ma vie, il faut bien que la personne comprenne mon histoire. Il faut bien que la personne soit capable d'assumer, soit financièrement ou quoi. Enfin, je veux dire, je n'ai pas, même en termes de confort par exemple, je ne vais pas rétrograder entre guillemets mon confort parce que je tiens à être mariée par exemple.
Exactement.
Donc, et une fois de plus, comme je le dis, je suis assez indépendante pour m'offrir la vie que j'ai toute seule. Donc en fait, si tu rentres dans ma vie, et que tu m'apportes rien. Enfin, tu vois, c'est dans ce sens-là, tu vois. Ça a toujours été comme ça, donc ce n'est pas... Sauf que là, j'ai maintenant un poids. J'ai un poids historique sur la tête. J'ai une belle famille qui est très présente. Bon, en fait, c'est ça. C'est le plus dur pour moi va être... Limite, mon prochain gars, il va se présenter chez ma mère, chez ma famille, chez ma belle famille. Tu vois un peu le sens que je veux dire.
Je vois.
Ouais, franchement... Ils m'ont vraiment adopté, ils sont vraiment à côté. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un, je dirais, qui soit assez fort mentalement pour comprendre que c'est ma vie qui est ainsi, et moi qui ai la force de le mettre en sécurité, entre guillemets, mais ça ne fera que s'il y a des sentiments qui naissent, s'il y a machin, machin. Parce que, par exemple, je sais que quand Sylvain est décédé, je me suis fait faire un tatou en son honneur. Et une tante, il m'a dit, oui, mais si je vais t'épouser, j'ai dit, mais attends, stop, direct. Ça fait partie de mon histoire. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Je me suis tapé son initial, il n'y a rien à faire. Donc celui qui vient, il est de manière naturelle celui qui vient après 6 ans. Donc enfin, je veux dire, je n'ai même pas à me justifier. Moi, ce n'est pas quelque chose. Mais effectivement, oui, je vois forcément ma vie après. Peut-être aussi ça vient du fait que j'étais mentalement prête à me marier. Donc je ne sais pas si c'est que du coup, j'ai... Je ne vais pas mentir, j'ai pas cette crainte de ne pas me marier, mais j'ai l'impression que j'étais sur la route du mariage. Donc, du coup, ça me frustre parce que parmi tous les gens qui me draguent et machin, concrètement, si je me vois limite pas mariée avec toi, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. J'arrive pas à me projeter.
Exactement. Donc,
si je dis que dans 1-2 ans, oui, que toi, je ne vais pas t'épouser, en fait, ce que tu dis ne m'intéresse absolument pas. Nous avons vraiment fait un travail du fait qu'on était prêts. J'étais clairement prête parce que même l'une des dernières choses que Sylvain et moi on a fait, c'est de choisir nos alliances, par exemple. Parce qu'on avait prévu qu'on allait se marier avant décembre. Donc, dans ma tête, je m'imagine
j'aurais déjà être mariée, pas parce que le mariage est extrêmement important, mais parce qu'on voulait vraiment s'unir. Et vraiment, exactement. Je pense que c'était dans cette bulle de vivre ma vie avec mon mari, mon enfant, mes prochains enfants. Et c'est vrai que dans ma façon de sortir, de discuter, d'appréhender les gens, je suis vraiment focus dessus. Et parce que j'ai aussi, il ne faut pas l'oublier, une difficulté à tomber enceinte. Je dois, si je tiens à avoir les enfants comme je souhaite les avoir, il va bien falloir que je me mette avec quelqu'un, que je organise ma vie. Bon, je ne suis pas sûre que je referai un enfant en mariage, par contre. Je ne suis pas sûre que je le referai. Mais une fois de plus, je suis vraiment dans cette dynamique. Et de toute façon, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ça ne va pas ramener Sylvain. Donc, ça, je ne veux pas me punir d'un truc sur lequel je n'ai aucune décision.
Exactement.
Mais une fois de plus, je ne cours pas après un mariage si je trouve quelqu'un qui me garantit, qui est un arbre de paix, qui comprend la situation, qui comprend ma peine, parce que je pense qu'elle ne va jamais s'en aller. Voilà, donc ça appartient à Dieu, je mets ça entre guillemets, et puis je fais ma vie de jeune fille de 30 ans, tout simplement.
Merci beaucoup, Daniel, pour ces mots. On a vraiment fait le tour, le temps passe hyper vite, ça va faire une heure qu'on est là. On a fait le tour sur ta maternité, sur comment tu la vis en général, sur les bobos de la grossesse, l'accouchement, sur ta situation actuelle aujourd'hui sans papa. J'ai envie de te demander, que dirais-tu à une femme qui traverse la même situation que toi actuellement ? C'est vrai que c'est tout récent, parce qu'on parle de septembre dernier, mais il y a des personnes qui nous écoutent, qui potentiellement vivent des choses très difficiles, qui ont aussi peut-être perdu un fiancé, un mari, un amant, je ne sais pas, tout ce que tu veux, un papa en tout cas pour leurs enfants. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Qu'est-ce que je peux simplement dire? C'est que c'est bateau. Hein. Dieu donne, Dieu reprend. Je cherche le mot, la réputation de quelqu'un de très religieux. Moi, la religion, c'est extrêmement intime, mais vraiment, c'est ce qui m'aide. Ça m'aide en quel sens ? Parce que je me dis que, aussi douloureux que soit la situation actuelle, Dieu me garde forcément autre chose. Je ne sais pas, peut-être, il maîtrise. Que j'ai à faire, c'est lui faire confiance et espérer des jours meilleurs. Donc, je vais, comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Au contraire, je suis reconnaissante d'avoir vécu si belles années, vraiment d'avoir rencontré et vécu avec quelqu'un vraiment qui m'a fait progresser, qui m'a fait apprendre plein sur moi, qui m'a donné mon fils. Et je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est un bonheur que beaucoup de gens n'ont pas. Exactement. Et n'auront peut-être jamais. Donc, aussi douloureux que ce soit, j'accepte. Et j'espère en des jours meilleurs. Donc, espérer en des jours meilleurs. Et bien évidemment, quand on dit espérer, c'est aussi travailler sur soi. Donc, c'est pas, tu ne vas pas te rendre malade. Tu essaies quand même de te lever tous les matins. J'ai créé une entreprise depuis les 6 ans. Je n'ai aucune obligation de me lever tous les matins, mais je me lève tous les matins à 7h30. Je veux dire, tous les matins, je déboue à 5h30, je dépose mon fils, je suis à mon bureau à 7h30 tous les matins. Je travaille même les samedis. Pourtant, même en termes financiers, je n'ai aucune obligation de le faire. Parce que je tiens vraiment à être prête pour le meilleur, si tu veux, que l'avenir me prépare.
Exactement.
Croire en Dieu ne veut pas dire ne rien foutre. Tu continues, tu te bats, tu as un enfant, tu te bats. Parce que lui n'a rien demandé, toi non plus, mais je suis encore responsable de lui. Et je ne pense pas que son père apprécierait de me voir effectivement pleurer, ni encore moins abandonner l'enfant. Quoi. Comme je dis encore une fois de plus, j'étais prête à assumer cet enfant seul, toi qui m'écoutes. Donc, je vais le faire. Je vais le faire.
Merci beaucoup, Daniel, pour ces mots. Merci pour le temps que tu m'as accordé et que tu nous as donc accordé à tous. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission, d'avoir répondu aux questions sans filtre, je vais dire ça comme ça. Et je te souhaite vraiment de trouver la force de continuer à élever ton fils comme tu l'as toujours fait depuis le début. La force, le courage vraiment de te relever face à cette situation-là. Et je sais de toute façon qu'en femme forte que tu es, ça va aller et que le Seigneur fera. Donc voilà. Voilà. On va donc se quitter sur ces mots-là, sauf si tu as quelque chose à rajouter.
Oh, non, juste... Franchement, la vie est belle, l'aventure de mère est belle, donc... Enjoy.
Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir été parmi nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous soutenir, de partager. On se dit à très vite pour le prochain épisode qui sera tout aussi intéressant. Et en attendant, prenez bien soin de vous.